France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, la France est-elle vraiment championne du monde du tourisme, comme on l'entend souvent, et surtout, est-elle à la hauteur de sa réputation? Son ambition d'accueillir 100 millions de visiteurs d'ici 2 ans est-elle réaliste? Se donne-t-elle vraiment les moyens d'accueillir tous ces touristes dans de bonnes conditions? L'offre d'hébergement est-elle suffisante? La concurrence d'Airbnb est-elle un problème ou pas pour les professionnels du secteur? Et que dire de la répartition de ces touristes à l'échelle de l'Hexagone? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir au téléphone sonne, alors que les derniers chiffres viennent de tomber pour Paris et l'Île-de-France. Record absolu de fréquentation au premier semestre 2018 pour la région capitale et globalement, un nombre de visiteurs étrangers reparti à la hausse depuis 2 ans. Une affluence qui n'est pas sans conséquence pour les habitants des régions concernées et qui pose aussi la question de l'impact climatique du tourisme de masse pour l'environnement. Avec nous pour parler de tous ces sujets et de bien d'autres encore, le sociologue Jean Viard, spécialiste du temps libre et des vacances, qui est resté avec nous. Rebonsoir Jean Viard. Caroline Mignon, directrice d'ATES, l'association pour le tourisme responsable et solidaire. Bonsoir Madame Mignon.
Bonsoir.
Philippe Lefebvre, chargé des questions de tourisme à la rédaction de France Inter. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Claire.
Et Didier Arinaud, directeur du cabinet Pro Tourisme. Il est en duplex de Bordeaux. Bonsoir Monsieur Arinaud, vous êtes bien là ?
Bonsoir.
Dans les locaux de nos confrères de France Bleu Gironde, que l'on remercie chaudement. On attend vos appels à tous au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et un premier appel qui nous vient des Yvelines. Marc est en ligne. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Merci beaucoup. Alors, je suis, bon, il y a de quoi être fier peut-être de ces chiffres qui paraissent excellents. Mais néanmoins, je me pose la question de leur véracité, c'est-à-dire la manière dont ils sont élaborés. Parce que pour 60 millions ou 80 millions de visiteurs en France, j'ai trouvé sur Internet pour 2016, en Floride, 90 millions de touristes. Donc enfin, apparemment, on n'est pas les premiers.
Voilà, il y a parfois des petites guéguerres comme ça. Il y en avait une il n'y a pas très longtemps entre Paris et Londres, je me souviens. On va peut-être demander à Didier Arinaud du cabinet Pro Tourisme en direct de Bordeaux. Comment mesure-t-on le nombre de touristes qui peuvent arriver en France et quelle est la réalité des chiffres, Monsieur Arinaud?
Oh, écoutez, cette réalité, elle arrange bien les gouvernements successifs parce que vu notre situation au cœur de l'Europe, bon nombre de Nord-Européens, quand ils décident d'aller en Espagne, en Italie, au Portugal ou même au Maroc, sont obligés de traverser notre pays. Donc en fait, la définition du touriste, c'est celui qui passe une nuit en dehors de son domicile. Donc compte tenu de notre situation, on compte aussi le routier qui dort dans son camion comme un touriste ou celui qui a une résidence secondaire et qui traverse 10 fois le pays, celui-ci est considéré comme dit touriste. D'ailleurs, c'est souvent impropre, c'est-à-dire on parle de touriste alors qu'il s'agit d'arrivée touristique. Donc la même personne peut être comptée un grand nombre de fois, alors ça arrangeait tout le monde parce que ça permettait de dire que la France est la première destination touristique, mais dans la réalité, on ne l'est pas, puisque quand on regarde le chiffre d'affaires généré par les touristes étrangers, les États-Unis génèrent 4 fois plus de chiffre d'affaires que nous.
Ça, on y reviendra, Monsieur Arinaud, mais on va d'abord s'arrêter sur ces chiffres de touristes qui viennent en France, même si c'est difficile à comptabiliser. Moi, j'ai vu 82 millions de touristes en 2016, 89 en 2017. Où en est-on précisément, Monsieur Arinaud, en 2 secondes, et puis après, je passe la parole à Jean Viard ici.
En 2 secondes, ce chiffre, il est invérifiable, il est tout à fait approximatif. La réalité, c'est que nous avons près de la moitié de ces soi-disant touristes qui ne sont que des clientèles de passage, des clientèles en transit ou des clientèles en court séjour. Quand on regarde l'évolution du tourisme, en 16 ans, nous avons progressé d'environ 10%, quand les plus mauvais de nos voisins, et c'est-à-dire l'Italie, progressent de 30%, les États-Unis de 48% ou l'Espagne de 63%. C'est un bon moyen de faire cocorico. La réalité, c'est que, sans se flageller, mais nous perdons des parts de marché année après année.
Jean Viard,
on montre
les muscles et puis on n'est pas aussi fort que ça, c'est ça?
On peut discuter des chiffres, je veux dire, est-ce qu'il dit vrai? Enfin, je veux dire, il y a une partie des gens qui passent. Bon, ils passent, on est au milieu. C'est sûr que c'est pas comme si on était à Nice, hein, on n'est pas le Portugal, qui progresse beaucoup. Mais si vous voulez, ce qu'il faut dire, on le sait, il y a beaucoup de gens qui passent en France. Il y en a qui viennent pour la France, il y en a qui passent, c'est vrai. Et on n'est pas très bon en chiffre d'affaires. On peut le dire très clairement, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, nos touristes nous rapportent pas énormément en termes effectivement de consommation. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, et c'est vrai qu'effectivement on a un énorme boulot à faire. Vous savez, le tourisme c'est 7 à 8% de l'économie des sociétés modernes, donc c'est essentiel, faut se donner, non mais c'est important de le dire,
on viendra à l'économie,
voilà. Non mais je veux dire, le nombre des gens qui viennent, c'est l'ensemble du système qui est important, et c'est vrai que si vous voulez, en plus la France est une position historique, parce que le tourisme s'est développé au 19e siècle, on était le cœur des élites européennes, donc il y a un poids là qui est particulièrement lourd, mais il y a un boulot à faire, ça se fera pas tout seul.
Alors on va reparler de tout ça, mais Caroline Mignon, pour vous, est-ce que c'est pertinent tous ces chiffres, notamment quand on dit on table sur 100 millions d'ici 2 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a un intérêt ou pas?
Justement, nous on se pose la question, acteurs du tourisme durable, de pourquoi 100 millions? Parce qu'effectivement on parle d'arrivée internationale, de gens qui transitent pour certains, on parle pas du tout des Français qui restent en France, qui sont de l'ordre de 75 millions pour des séjours de plus de 4 nuitées, donc c'est important aussi. Nous, on se pose la question vraiment de se baser sur un seul indicateur, qui est celui-ci, de dire 100 millions, pourquoi pas 200, pourquoi pas... Et c'est dommage de ne pas s'intéresser à d'autres types d'indicateurs. Et c'est ça vraiment qu'on souhaiterait voir apparaître dans le tourisme et prendre la prise en compte du tourisme durable par d'autres indicateurs que le seul nombre de touristes.
Philippe Lefebvre.
Il y a quand même quelque chose de très étonnant, vous le disiez, Claire. On montre les muscles, et puis dans le même temps, après, on va faire des grands débats sur le surtourisme. Alors on dit, il faut 100 millions de touristes, peut-être pourquoi pas 200 millions, et puis après on dit, il y a trop de touristes. C'est qu'actuellement, des villes comme Rennes, par exemple, qui ont depuis un an la ligne à grande vitesse de TGV, 1h25 pour être dans le centre de Rennes, on a dit, c'est génial, il va y avoir beaucoup de monde qui va venir à Rennes. Aujourd'hui, vous avez des professionnels du tourisme à Rennes qui disent, on va peut-être avoir trop de monde d'ici 2-3 ans. Donc, voyez.
Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, Philippe, parce que Gérard nous appelle de Paris, il a justement une question à poser qui va dans ce sens-là. C'est ça, Gérard? Bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, 100 millions de touristes, c'est à peu près l'objectif qu'on souhaite atteindre. Je pense que vous devez, comme moi, avoir entendu lire que dans des villes comme Lisbonne ou Barcelone, et commencer maintenant, il y aura des mouvements de rejet des touristes.
Et mais vous qui êtes sur la région parisienne, vous ressentez pas ça? Parce qu'il y a des touristes à Paris.
Je suis à Paris, il y a toujours du monde, c'est une ville complètement, on va dire, monde mélangée, donc spécialement pas. Mais je veux dire, par rapport à ce phénomène, donc dans ces deux villes que je viens de citer, est-ce que notre administration en France a conscience de ça, a mis en place un seuil, si je puis dire, d'acceptabilité, si jamais on arrivait, à partir duquel peut-être qu'il y aurait des mesures à prendre. Ceci étant, Lisbonne et Barcelone sont des villes, entre guillemets, terminales, où les gens ne transitent pas, si je puis dire, elles vont séjourner là-bas, quitte à bouger un peu en Espagne, en Portugal, alors qu'il est vrai que la France est une région de transit, une zone de transit.
Merci Gérard pour cette intervention. Philippe Lefebvre peut-être.
Oui, alors sur Lisbonne, c'est un cas particulier. C'est pas tant le rejet du touriste qui pose problème, c'est un problème lié à Airbnb. Dans le centre de Lisbonne, depuis quelques années, il y a une espèce de folie qui s'est emparée des Lisboètes, qui retapent des vieux appartements, qui les mettent en location, et il n'y a plus de logements pour les jeunes Lisboètes, les étudiants Lisboètes. Donc là, le problème, il est plus à ce niveau-là. Et on le retrouve aussi, je pense, à Barcelone.
À Barcelone, Jean Viard, oui.
Mais c'est d'ailleurs mis
et
en
à Paris,
voir
ça
que...
commence à... Oui. La municipalité est pas très contente non plus.
Non, mais on proteste beaucoup contre Airbnb et pas contre les résidences secondaires. À Paris, il y en a 120 000. Moi, j'aurais tendance à dire, dans les grandes métropoles, il ne doit pas y avoir de résidences secondaires. Les villes doivent être habitées. Vous voyez, or ça bloque beaucoup plus de logements qu'Airbnb. Ça veut dire que tout ça, il y a aussi des gens qui montent les conflits, des hôteliers, etc. Faut pas être naïf non plus dans ce processus. Après, si vous voulez, Airbnb a des effets de diffusion. Bon, moi, je vois à la campagne chez moi, l'autre jour, je mangeais à côté d'un Australien, j'en avais jamais vu. Et pourquoi? Parce que sur Internet, le village, il l'a trouvé, il l'aurait pas trouvé. Donc il faut faire très attention. Après, si vous voulez, c'est vrai qu'on ne peut pas, j'allais dire, lâcher 100 millions de personnes sans des règles, sans une organisation, etc. Vous prenez par exemple, si vous voulez, Airbnb. Il y a des endroits, maintenant, on développe des conciergeries d'Airbnb. C'est-à-dire que les gens, il y a 20, 30, 40 logements, il y a un salarié qui est là pour accueillir les gens, pour passer le soir, pour voir. Parce que les gens qui sont Airbnb, s'il y a 2 heures du matin, ils dansent sur leur terrasse à poil, ça ne les gêne pas. Ils viennent que 2 jours. Mais les voisins, c'est tous les jours. Donc, si vous voulez, il y a besoin de codes, il y a besoin de règles. Les hommes ne peuvent pas se déplacer comme ça. Il y a plus de touristes qui viennent en France qu'il y a d'habitants, quand même. C'est ça qu'il faut se représenter en chiffres. Alors, c'est un peu idiot, mais voilà. Et je crois qu'il y a une politique du tourisme à mettre en place, y compris compris de diffusion des lieux. Il faut que le type qui a la cathédrale de Paris, on lui donne des plans des 20 cathédrales françaises les plus belles à aller voir et que ça fasse partie du même protocole.
Caroline Mignon.
Oui, effectivement, l'overtourisme, à notre sens, c'est un réel problème, mais très localisé. Il y a énormément de régions en France qui aimeraient bien avoir plus de touristes. Donc l'enjeu, il est peut-être plus sur la répartition des flux dans des régions qui souhaiteraient en accueillir plus. Bien entendu, on ne verra pas la même chose dans telle ou telle ville de région qu'à Paris. Même si l'overtourisme doit être réglé, nous on estime qu'il est extrêmement important et c'est un point qui se justifie pour Paris, qui se justifie n'importe où ailleurs dans le monde, que les habitants soient associés à la concertation sur le tourisme. On ne se sortira pas de ces formes de tourisme-là, de masse, etc., sans concertation avec les habitants des villes qui ont de l'overtourisme ou des villes qui n'ont pas assez de touristes.
On va partir à Annecy. Claude est en ligne. Bonsoir Claude.
Oui, oui.
Beaucoup de touristes dans votre secteur ?
Oui, énormément de touristes autour du lac d'Annecy. C'est un petit lac, le lac d'Annecy, et il est suroccupé en période estivale. Et donc, pour les habitants, les gens qui habitent Annecy et la région, c'est absolument insupportable. Il y a de plus en plus de monde. Pour faire 13 kilomètres pour aller à Annecy depuis l'endroit où j'habite, il faut souvent plus d'une heure. C'est aberrant. Et il y a des campings partout, de plus en plus de constructions. Tout ça, évidemment, en grande partie pour les touristes. Donc, tout le tour du lac d'Annecy, il y a de plus en plus de maisons. Annecy n'a pas été classée comme, je ne sais pas comment on appelle ça, à l'UNESCO, comme région remarquable, à cause du nombre de constructions qu'il y a tout autour du lac. Donc là, je pense qu'il faudrait absolument limiter le nombre de touristes dans certaines régions. Et c'est la même chose, évidemment, dans le sud. Il y a, quand on voit l'espèce de mur de béton là sur la Côte d'Azur, c'est absolument écœurant. Quand on a connu les années 50, les villas, il y a un gouffre absolument énorme.
Merci, Claude, de nous avoir appelé. Je vais me tourner vers Didier Arino, qui est à Bordeaux. Didier Arino, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter que les touristes se concentrent tous au même endroit pour leur permettre de découvrir d'autres régions qui sont moins fréquentées ?
Bien sûr, il y a un grand nombre de mesures qui peuvent être prises. Bon, tout d'abord, il faudrait qu'on ait une véritable politique touristique. Rappelons que si la France est devenue une très grande nation touristique, c'est parce que dans les années 60, il y a eu la volonté d'aménager le territoire. L'aménagement de la côte aquitaine, l'aménagement de la côte languedocienne, l'aménagement de la montagne ne s'est pas fait comme ça de façon spontanée. Ça a été une politique volontariste de l'État. Or, depuis, on se repose sur nos lauriers, c'est-à-dire on subit le tourisme, on laisse faire souvent les opérateurs touristiques privés, c'est très bien, mais qui vont plutôt dans les zones faciles. Et au bout du compte, quand on parle du tourisme français, souvent on se trompe. Il n'y a pas un tourisme français, il y a des tourismes français. Et ce que l'on voit, c'est certaines zones avec un surtourisme, mais 80% de notre territoire qui est un désert touristique. Or, nous avons besoin de ce tourisme pour faire vivre nos campagnes. Nous avons besoin pour que la boulangerie, pour que la pharmacie puisse continuer à subsister, d'avoir ce complément d'activité touristique. Et ça suppose effectivement une meilleure répartition des flux. Alors, il y a un travail formidable qui est fait ici ou là. Quand on voit Carcassonne avec 2 millions de touristes qui se concentrent sur la cité, il y a la volonté du département de permettre une déambulation. Et c'est vrai que ces touristes ne savent même pas qu'à quelques kilomètres, il y a des points de vue magnifiques, il y a le canal du Midi, il y a une offre œnotouristique, il y a les châteaux cathares. Ils peuvent aussi aller en bord de mer dans des stations comme Gruissan. Donc il y a nécessité de générer vraiment une déambulation sur les territoires pour qu'ils soit non seulement acceptable, mais qui puisse rapporter au territoire. Moi, je le dis sans aucun complexe, le but, c'est pas d'avoir des touristes pour des touristes. Il faut que les touristes aient le moindre impact sur l'environnement et il faut qu'ils aient un maximum, qui permettent un maximum de retombées économiques et de création d'emplois sur les territoires. Il n'y a pas la volonté comme ça de développer le tourisme uniquement parce qu'on aime les touristes, sinon on les accueillerait gratuitement chez nous. Il y a la volonté de participer grâce à l'activité l'activité touristique à une meilleure répartition des emplois sur le territoire national. Et en la matière, on voit bien que de plus en plus, on a des pôles urbains qui concentrent l'activité touristique, avec toutes les problématiques d'Airbnb qui ont été indiqué. D'ailleurs, pour reprendre ce que dit Jean Viard, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien que Airbnb soit dans des zones où il n'y a plus d'hébergement touristique. Le problème, c'est pourquoi n'y a-t-il plus d'hébergement touristique? Pourquoi ces hôtels ont fermé? Pourquoi ces campings n'arrivent pas à vivre? Or, Airbnb est très souvent dans des zones où le marché est présent, parce que ce sont pas des entreprises philanthropiques, ce sont des entreprises qui veulent, bien évidemment, aller Merci. Où le marché est présent, et ça crée des déséquilibres.
Merci
et le
Didier
problème,
Rien.
C'est le problème du déséquilibre.
Merci Didier Rino. Jean-Vierre, vous souhaitiez réagir?
Non, mais moi, il faut garder l'idée. Le tourisme, c'est quoi? C'est des hommes qui vont voir des hommes, visiter leur culture, s'aimer, etc. Et je crois qu'il faut le défendre comme système de valeurs. Et qu'il ne faut pas uniquement considérer que c'est une affaire économique. Après, le monsieur de Chambéry, si on lui met une usine de 10 000 salariés qui fabriquent des voitures, il va trouver ça bien parce que c'est du vrai travail. Mais ça va bousculer son territoire encore plus que le tourisme. Donc, je veux dire, le tourisme, c'est une des activités humaines des sociétés modernes, comme l'industrie, comme etc. Et donc, il faut le voir de la même manière. En ce moment, il y a une montée du nationalisme partout. Alors, dans le nationalisme, il fait un discours anti-touristique, comme il fait un discours anti-immigré. Il ne faut pas être naïf non plus. Il ne faut pas dire, ah oui, c'est bien, il y a des gens. Alors, à Venise, c'est un scandale, le fait qu'on ait laissé les bateaux qu'à moitié démolir la ville. On vient de les interdire. Mais ça montre bien qu'il y a des problèmes de régulation. Voilà, moi je crois que le tourisme, c'est d'abord la mise en désir de certains territoires. Il y a plein d'endroits, s'il n'y avait pas de tourisme, ça serait tout mort. Je veux dire, la Provence intérieure, quand j'étais gamin, la moitié des maisons étaient en ruine. Il ne faut pas rêver, le monde d'avant, dans ces territoires, il s'effondrait. Donc il faut faire extrêmement... Et ça a attiré... Les start-up s'intéressent, s'installent énormément dans les grandes régions touristiques. Les jeunes partent moins des régions touristiques que des autres. Donc il ne faut pas faire comme si c'était, d'un coup, une espèce de saleté qu'on déposait sur la société. C'est un des moteurs de la transformation qui demande régulation. Il y a des régions qui le font bien, et vous avez parlé de Carcassonne, la région Occitanie fait une vraie politique. Donc il faut dire aussi, il y a des élus qui font rien.
Caroline Mignon.
Oui, mon idée va dans ce sens-là. En fait, on a fait du tourisme un enjeu purement économique qui est déconnecté de tout le reste. Or, le tourisme doit être connecté absolument avec le reste, avec la vie locale, avec les enjeux territoriaux, etc.
Aujourd'hui, mais la faute à qui d'avoir fait ça?
Alors ça, je pourrais pas vous répondre.
Aux groupes qui ont voulu faire des bénéfices sans allier la culture
groupes,
et le reste.
Les groupes vont effectivement où il y a déjà du tourisme où l'argent vient facilement. Donc évidemment, ils vont pas aller dans des zones plus désertifiées parce que le rendement viendra à plus moyen terme. Mais je pense qu'il est essentiel de faire du tourisme dans les politiques nationales. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il y a pas mal de politiques locales, régionales qui vont vers plus de durabilité, de responsabilité dans le développement d'un tourisme raisonné en accord avec les habitants, respectueux de l'environnement. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans les politiques nationales et c'est certainement pas quelque chose qu'on trouve dans le plan tourisme 2020 avec l'objectif des 100 millions de voyageurs. Le mot durable et le mot responsable, le mot respectueux et le mot habitant sont absents.
Alors on va parler Philippe Lefebvre évidemment de ce plan à venir, mais je voudrais qu'on prenne Michel qui patiente au standard un petit moment déjà. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Alors, pour quelle raison vous avez souhaité vous exprimer sur l'antenne de France Inter?
Alors écoutez, moi je ne peux pas intervenir sur la nécessité, le bien fondé d'augmenter le tourisme en France, etc. C'est pas mon propos. Mais je rejoins Monsieur Viard quand il dit que de toute façon on a un énorme boulot à faire. Et je pense notamment dans la perspective des Jeux Olympiques de 2027. On a quatre points noirs à mon avis. Le premier point noir, encore une fois, ça ne concerne pas la totalité de la France et je parle essentiellement de l'Île-de-France et de Paris. C'est la propreté qui laisse à désirer, et voire même la vétusté d'un certain nombre de toilettes, de lieux d'aisance dans Paris, dans les cafés, dans les restaurants. C'est souvent une catastrophe, et ça fait honte, franchement, pour ce pays qui est traversé par des millions de touristes, par cette capitale qui est visitée par des millions de touristes également. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on a vraiment d'énormes efforts à faire par rapport aux pays qui nous entourent. Je pense même à l'Italie, à l'Espagne, à l'Allemagne et à l'Hollande notamment, que je connais. Le deuxième point noir que nous avons, ça touche à l'accueil, et l'accueil sur trois points à vrai dire, c'est l'accueil au niveau des garçons de café. Très souvent quand on est en terrasse, on se demande s'il faut pas lancer un fumigène, soit pour prendre la commande, soit pour payer son addition. Troisième point noir, c'est aussi nos transports en commun, enfin je pense notamment les taxis. là, c'est pas tout à fait les transports en commun, mais les taxis sont souvent d'une amabilité qui, elle aussi, laisse à désirer. Et enfin, je fais vite, hein, le quatrième point, c'est quand vous êtes dans Paris ou en Ile-de-France et que vous êtes un petit peu perdu, que vous cherchez votre chemin, que vous n'avez pas forcément votre GPS, vous vous adressez à un agent de police qui est là, eh bien, on est loin des gardiens de la paix d'antan, et invariablement, vous demandez votre chemin et le fonctionnaire de police vous répondra « Je ne sais pas, je ne suis pas d'ici ». Si on ne
Merci.
Bouge pas,
oui, oui,
si
Michel.
On ne bouge pas d'ici 2024, les Jeux Olympiques, ce sera raté.
Merci Michel pour ces remarques. En tout cas, attendez, Jean Viard, sur les toilettes, il a raison.
Les
chauffeurs de taxi, les garçons de café. Bon, les chauffeurs de taxi, ça s'est un peu amélioré.
Les garçons de café, moyen.
Hein.
Vous savez, le nombre d'endroits en France où dans les toilettes pour hommes, il n'y a pas de cintre pour poser son veston, c'est inimaginable. Et je ne donnerai pas d'adresse.
Encore vous, on vous donne des uri-trottoirs maintenant.
Non, mais je veux dire, c'est important. Et vous savez, je vais vous dire.
Nous autres, les femmes, je vous dis pas.
J'ai été élu à Marseille, j'ai transformé le Vieux-Port. Et je voulais mettre des toilettes publiques sur le Vieux-Port. Eh bien, il n'y a pas eu moyen. Pourquoi ? Parce qu'aucun élu voulait être l'élu des chiottes. Ni à la communauté urbaine, ni à la ville. Aucun ne voulait être l'adjoint aux chiottes. Et donc, il n'y en avait pas de politique sur les toilettes publiques, alors qu'on a fait un espace, on a mis 80 millions de budget pour transformer le Vieux-Port. C'est pour dire que, si vous voulez, c'est des questions sur lesquelles, en France, on est mauvais, alors que l'accueil, c'est des choses simples, c'est des toilettes, c'est pouvoir langer les enfants, c'est d'être courtois. C'est comme ça qu'on gagne du pognon. Parce que c'est comme ça aussi que les gens reviennent et qu'ils sont clients. Alors, ça veut pas dire qu'il y a plein d'endroits qui sont très bien. Donc, je suis moins dur que le monsieur, mais il a raison, une politique touristique, c'est toutes ces choses simples comme ça, qui sont au départ de tout.
Et se mettre un peu à l'anglais aussi, peut-être Philippe Lefebvre.
Absolument, mais le problème, Claire, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion en France aujourd'hui.
Mais
il faut avoir le courage de le dire. Il y a une certaine époque, on avait un ministre, voilà, cherchez le mot, un ministre du tourisme.
C'est complètement dépassé, ce que vous
voilà, ministre délégué. le seul moment où il y a eu peut-être un petit éclair dans la nuit, c'est quand Laurent Fabius, à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, a dit « Je vais m'occuper du tourisme ». Et il s'est bagarré comme un chien vraiment pour l'obtenir. Et il faisait des choses. Il a commencé à travailler sur la perspective des Jeux Olympiques.
Sur le tourisme international.
Absolument. Mais depuis, on nous parle de Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État, qui s'occupe un petit peu du tourisme, au mieux plein d'autres choses. Mais autrement, il n'y a personne pour avoir une véritable vision du tourisme. Et ça, c'est dramatique quand même. On a quand même les Jeux Olympiques, on a des compétitions sportives autres, notamment en matière de rugby. On va avoir des grandes réunions internationales, et on n'est pas capable de se coordonner. Chacun fait ce qu'il veut. Vous allez dans les grands sommets internationaux. Vous allez par exemple, je me souviens d'un colloque à Macao pour promouvoir le tourisme français. On avait l'impression que les gens se bagarraient dans les couloirs pour savoir celui qui allait parler, celui qui allait tenir le crachoir pendant 2 minutes devant des chefs d'État et des chefs d'entreprise de Macao. C'était n'importe quoi.
Vous ne croyez pas si bien dire, il y a Pascal qui va en rajouter une petite couche, je pense. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir.
On a déjà largement évoqué le sujet, mais on vous laisse la parole malgré tout. Allez.
Non. Là, c'était pour vous dire, parce que nous, avec mon épouse, nous sommes artisans et nous travaillons dans le Lot. On est dans le Lot, mais on travaille aussi sur la Corrèze. On fait partie d'un office de tourisme qui est un des plus grands, je crois, de France, hein, puisque ça s'est regroupé sur 2 départements, une grande région, puisque c'est le nord du Lot. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des offices de tourisme, on a fait l'effort de se regrouper entre le Lot et le sud de la Corrèze, depuis Argentat jusqu'à Souillac, Gramat, Rocamadour, mais en n'ayant pas d'office de tourisme suffisamment puissant avant pour pouvoir aider au développement. Depuis, ça a fait qu'il y a une meilleure communication sur la vallée de la Dordogne, l'autre vallée de la Dordogne, parce que je n'oublie pas le classement à l'UNESCO de la vallée de la Dordogne.
Mais ça manque de coordination, tout ça, c'est ça que vous voulez dire.
Ce que je voulais dire, c'est que ça manque de coordination, et surtout, c'est que les hôteliers qui sont dans la région, il y a certains hôtels qui ont les moyens, qui sont plus récents, mais des hôteliers qui sont comme à Collonges-la-Rouge, l'hôtel ne peut pas se développer, il ne peut pas recevoir dans des conditions comme à l'Espagnol, où j'ai vu un reportage à la télé où en Espagne ils ont des boîtes dans la cave et à l'étage au dernier étage ils ont un autre lieu de festif. Je pense aux Baléares puisque c'était sur les Baléares que ça se passait.
Merci Pascal.
Voilà, et pour dire qu'en fait il faudrait un ministre du tourisme pour que le tourisme puisse être bien dirigé parce que
Parce que ça manque. Rapidement, Jean Viard, et après on va voir Didier Arnaud.
Justement, on a eu des ministres du tourisme. Ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est un secteur central de la construction des pays modernes. Nous, on a été touristiques sans l'avoir voulu. On était au cœur de l'Europe au 19e. Les gens sont précipités sur Paris, la Côte d'Azur et la Savoie. Sans qu'on le veuille, on n'a pas fait
on
de politique.
On a la Tour Eiffel, on a les châteaux
France,
de la Loire et Versailles.
Une des raisons
et...
qui fait la meilleure politique, c'est le Nord. Excusez-moi, faut plus le dire. Les Hauts-de-France, si le président m'entend, il va encore m'engueuler. Mais dans les Hauts-de-France, vous regardez le château de Chantilly, vous regardez tout ça, parce qu'ils ont construit une politique. Et donc, ça veut dire qu'il faut construire une politique. Moi, je pense que le tourisme, c'est une des faces de la culture. Et qu'à la limite, le tourisme, ça devrait être attaché au même ministère. C'est les hommes qui reçoivent les hommes. On montre des œuvres. Et le ministère de la Culture devrait prendre la main pour donner de la légitimité. Et derrière, effectivement, c'est un business énorme. Mais une chose, les gens qui viennent en France achètent des produits français. Vous savez, les parfums, les sacs à main, tout ça. Si c'est pas parce que le pays le plus touristique au monde, dans l'imaginaire en tout cas, je parle pas des chiffres, ça vend des produits. Donc mettons tout ça ensemble.
Didier Arnaud, à Bordeaux, vous vouliez parler au tout début justement des retombées économiques de ce secteur qui est en pleine croissance, non ?
Alors c'est un secteur qui est en croissance, qui pourrait d'ailleurs croître beaucoup plus. Ça passe par l'investissement, ça passe par l'innovation, et il est bien là le problème. C'est-à-dire qu'on a une rentabilité de l'investissement en France qui est beaucoup plus faible que dans nos pays voisins. On a aussi du mal à trouver du personnel dans le secteur du tourisme. Et ça, c'est une vraie difficulté. Il y a 50 000 emplois qui sont non pourvus dans le secteur du tourisme. Comme beaucoup d'ailleurs d'emplois manuels, on part du principe dans notre pays, malheureusement, que ces emplois ne sont pas valorisants. Or, on peut faire de très très belles carrières dans le secteur du tourisme, et il est très important de réhabiliter ces métiers, parce qu'on est face à un paradoxe énorme. Accueillir plus de touristes, mieux les servir, être compétitif, mais quand on n'a pas d'employés. Je ne connais pas un restaurateur cette année qui ait plus de 20 salariés, à qui il ne manque pas au moins une personne, voire deux, trois, en pleine saison touristique. Donc on a des difficultés. Alors il y a ceux qui vont vous dire, oui, mais le problème, c'est que les gens sont sous-payés dans le secteur du tourisme.
Il y a une grande précarité quand même dans ce domaine. Hein.
Saisonnalité aussi.
Pardon ? Il y a une grande précarité quand même pour les employés du tourisme.
Et bien, écoutez, non,
et ça, on nous le dit sur franceinter.fr là ce soir. Il y a des gens qui nous appellent pour ça.
Mais moi, ce dont je vous parle, ce sont des emplois en CDI, ce sont des emplois avec des gens qui peuvent être formés et qui ont des formations. Donc, on ne peut pas... Il y a eu effectivement des abus dans le secteur du tourisme, mais là, je vous parle de véritables emplois en CDI qui ne sont pas pourvus et pour lesquels les hôteliers, les restaurateurs sont prêts à loger le personnel. Donc, on a aussi des problèmes dans notre secteur d'attractivité de ce secteur du tourisme, de création d'emplois et donc de la valeur ajoutée que nous perdons. Or, ces emplois, ils sont très importants, mais ça dépend de la façon dont on les perçoit. Soit on se perçoit comme un porteur d'assiette, soit on se perçoit comme quelqu'un qui va permettre une découverte d'une culture, comme le dit très bien Jean Viard, de valorisation de production de terroir, de quelqu'un qui permet de passer des bons moments. Et le tourisme, c'est une expérience, et c'est une somme de choses qui va de l'accueil à l'investissement, à la qualité de la formation et de la prestation. Ce tourisme, il est de plus en plus expérientiel. Et on le voit bien, il y a un décalage très important entre les acteurs, entre ceux qui proposent de la qualité, qui savent se mettre en marché. Et cette année, c'est une année de tous les paradoxes. On a des écarts considérables sur la façade atlantique, alors qu'il a fait très beau au mois de juillet. On n'a jamais eu autant de baisses de fréquentation. Alors bien évidemment, il y a l'Île-de-France, il y a des régions qui ont bénéficié de cette météo et des clientèle étrangère comme la Côte d'Azur ou les Hauts-de-France, mais globalement on a un tourisme qui tout saute alors que on a une croissance mondiale qui est tout à fait considérable de ce secteur touristique. Donc ça passe aussi, comme c'était évoqué, par une meilleure coordination au sein des territoires. Quand on prend certaines régions, on a des présidents de région qui veulent que communique autour du nom de la région. Enfin, la Nouvelle-Aquitaine, ça veut rien dire pour le touriste. Il connaît le Pays Basque, il connaît le Périgord, il connaît le Bordelais, il connaît le bassin d'Arcachon. Donc c'est très important aussi d'avoir des raisonnements par zone géotouristique, d'associer les acteurs et puis d'avoir des moyens. Parce que la plupart des institutions du tourisme n'ont pas de moyens. 80 à 90% des ressources sont consommées désolé, ils sont consumés par la masse salariale et les frais de structure. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de la promotion. Dans d'autres pays, on se donne les moyens de la promotion. Ça sert à rien d'avoir un office de tourisme, d'avoir un CDT ou un CRT qui est chargé de la promotion s'il n'a pas les moyens de cette promotion. Donc, trop souvent, on fait semblant. On ne fait pas de choix. On a une politique de saupoudrage. Or, quand on voit le secteur, par exemple, de l'hôtellerie de plein air, c'est un secteur qui a multiplié par deux son chiffre d'affaires en 10 ans. Et ça passe par, c'est passé par l'investissement. Quand on voit des opérateurs comme Sunelia, ils sont en très forte progression. Quand on voit le tourisme qui est...
Il y a du boulot, si je vous entends bien, Didier Reynaud. Il y a du boulot.
Pardon ?
Je dis, il y a du boulot.
Il y a
boulot.
Un boulot qui est... Voilà. Le secteur du naturisme, là, il y a un très très
impact. Il paraît qu'on est champion du monde, là.
Ouais, et le naturisme, on est champion du monde en la matière. Des opérateurs comme France 4 Naturisme sont en très forte progression. Donc, il est très important de structurer les filières. La filière vélo, c'est une filière que certains territoires ont décidé de structurer. Je prends un département comme l'Isère, mais il y a aussi des opérateurs. Là, on est véritablement dans le lien entre l'homme, le touriste, la nature, la découverte des terroirs, et ça profite à l'ensemble des territoires,
merci.
À l'ensemble des vallées.
Merci
et c'est
beaucoup.
Ça le vrai défi.
Coup Didier Reynaud, merci beaucoup.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Christine est en ligne, bonsoir à vous.
Bonsoir.
D'où appelez-vous Christine ?
Alors, nous on est dans le Calvados, voilà. Donc, on est sur les plages de débarquement, donc évidemment, on a des sites, c'est un peu facile, mais là, je suis tout à fait d'accord à ce qui vient d'être dit. Et par rapport au tourisme rural, je voudrais savoir quelle est la part, justement, de l'évolution dans le tourisme en France, de cette part de tourisme rural, avec les hébergements tels que chambres d'hôtes, gîtes, accueil à la ferme. Et ça marche très très bien chez nous, mais est-ce qu'il y a vraiment assez d'aide pour cela? Et aussi le rôle des collectivités et des intercoms qui, autour de ce séjour, vont proposer des animations, des sorties, voilà. Et ça, c'est super, c'est ça qu'il faut aider. Moi, je pense qu'il y a un manque de moyens à ce niveau-là.
Quoi. Merci Christine, Jean Viard.
Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le problème, c'est que le tourisme, c'est l'art de se voir dans l'œil de l'autre. Et donc, effectivement, on va pas en vacances dans les Bouches-du-Rhône, on va en Provence. Et je prends cet exemple, mais on pourrait prendre d'autres. Alors, c'est vrai que la région Occitanie, par exemple, en prenant le nom Occitanie, j'avais dit à la présidente, c'est extrêmement intelligent, parce que vous avez construit votre histoire, finalement, en déplaçant le mot. Mais donc, c'est pour dire, le problème, c'est de se regarder. Et toutes nos structures ont été pensées, parce que pour les élus, c'est un peu sexy de faire du tourisme. On veut son office, on fait de la pub sur son département, sur sa région, ce qui ne sont pas des destinations. Le tourisme a des destinations, il a une géographie. Vous savez, la première chose qui nous manque sur le tourisme, on n'a aucun laboratoire de recherche. Alors, peut-être le premier pays touristique au monde, il n'y a aucun chercheur, il n'y a aucun laboratoire à l'école des études ni au CNRS. Alors, comment vous voulez pouvoir conseiller les élus, les renvoyer? Alors, les facs font des choses, il y a des tas d'endroits à droite et à gauche, mais on ne construit pas de savoir. Et je crois que c'est très important. Et je voudrais dire juste une chose, il faut aussi travailler sur l'emploi, c'est-à-dire sur l'alternance des jeunes. Enfin, je veux dire, il serait normal qu'une grande masse des étudiants travaillent l'été dans le tourisme, ça leur ferait du bien, ils auraient des sous, ils apprendraient à servir, à accueillir. Il y a plein de pays d'Europe où ça se passe comme ça. Donc, il faut pousser notre jeunesse à l'alternance travail-études, ce qui est un modèle aux États-Unis, c'est banal.
Caroline Mignon, de l'Association pour le tourisme responsable et solidaire. Vous souhaitiez réagir à ce que disait Jean-Vierre tout à l'heure?
Oui.
Alors, moi, je voudrais savoir un petit peu si les gens se tournent de plus en plus vers vous quand on parle tourisme durable, tourisme solidaire. C'est quelque chose qui parle de plus en plus aux gens qui cherchent cette alternative?
Oui, il y a un vrai mouvement de fond. On le voit dans la société, dans tous les autres secteurs d'activité, au-delà du tourisme, de plus de responsabilité, de plus d'authenticité et de plus de responsabilité, notamment dans la consommation. Et ça vaut aussi pour la consommation touristique. Or effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'observatoire du tout sur on n'a pas de chiffres. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous donner des chiffres autant que Jean Viard sur le tourisme durable, sur les acteurs qui s'impliquent, qui s'engagent, qu'est-ce que ça porte comme chose positive. On n'en a pas, malheureusement. Il n'y a pas de politique incitative à plus de responsabilité, de durabilité pour les acteurs. Donc, on parlait d'investissement tout à l'heure. Le plan tourisme qui est prévu prévoit des investissements importants, mais On reste toujours sur des investissements du toujours plus et on ne prend pas du tout en compte la dimension de responsabilité, la dimension environnementale n'est pas prise en compte alors que des acteurs s'engagent et que les consommateurs, les touristes appellent de leur vœu.
Antoine nous appelle de Lille, je vous passe la parole juste après Philippe Lefebvre. Bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir.
Vous avez souhaité intervenir, on vous écoute.
Tout à fait. Merci beaucoup déjà pour l'intervention, pour l'émission.
Je vous en prie, on est là pour ça.
Voilà, je suis un ancien étudiant géographe. Il y a 10 ans de ça, j'avais fait un mémoire sur les conséquences du tourisme sportif dans le Mont Blanc, sur le Mont Blanc. Donc, petite pensée pour mon maître de conférence de l'époque, Jean Scoll. Voilà. Ma question est toute simple et ma réflexion est toute simple. On veut 100 millions de touristes en France. Oui. Dans quelles conditions est-ce qu'on va continuer à amener des gens, par exemple aujourd'hui à commencer l'UTMB, la course très médiatisée de trail autour du Mont-Blanc. Comment on fait? Est-ce qu'on propose à tout le monde d'aller là-bas en voiture, de polluer un maximum, de continuer l'emballement climatique qu'on a tous constaté cet été? Ou est-ce que la SNCF nous permet, via les trains, via l'électricité, de moins polluer et d'aller là-bas, en tout cas d'avoir un impact limité pour aller là-bas et pour se rendre sur des zones touristiques? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis père de 2 enfants, on est 4. Entre prendre le train et prendre ma voiture pour aller en vacances dans les Alpes, par exemple, le choix, il est vite fait, le choix économique est vite fait par rapport à nos revenus avec ma femme et moi. On n'est pas capable de prendre un billet de train aller-retour pour 4 parce que c'est trop cher pour nous. Voilà. Je pense qu'on nous incite pas assez. Il n'y a pas assez d'incitation à ce qu'on nous permette d'aller faire les touristes, mais en tout cas avec un impact limité, parce que je pense que nos enfants et petits-enfants, un jour, pourront plus être des touristes parce qu'il n'y aura plus lieu sur lequel...
Merci beaucoup Antoine, je vous presse un peu parce qu'il est déjà 19h54. Caroline Mignon.
Oui, effectivement, on parle d'impact. Aujourd'hui, on ne connaît pas le bilan carbone du tourisme en France, par exemple. On l'a jamais calculé. Quelques régions l'ont fait, des collectivités l'ont fait. On l'a jamais fait. Donc, c'est évidemment difficile de prendre des décisions et de faire des propositions politiques sur des éléments pour lesquels on n'a pas des chiffres.
Alors moi, ce que j'ai vu comme chiffre, et c'est plus global, hein, au-delà de la France, 8% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au tourisme à l'échelle mondiale, ce qui est quand même énorme. Vous voyez, Jean Viard, qu'il était utile, Nicolas Hulot, dans le gouvernement.
Mais j'ai pas dit qu'il n'était pas utile. Moi,
vous avez un petit peu dit ça.
Non, mais c'est pas la même chose. Je veux dire, si vous voulez, bien sûr que le tourisme, ça pollue. L'industrie, ça pollue, tout pollue. C'est le problème. Comment est-ce qu'on fait pour faire reculer la pollution? C'est vrai que ça vient beaucoup des avions, d'ailleurs.
Parce l'avion.
Un des gros enjeux, c'est les avions. Oui, mais c'est en développant les techniques d'aviation, etc. Je veux dire, on développe en ce moment, on fabrique des avions partout. On a à peu près les techniques pour qu'ils polluent moins, notamment en changeant le kérosène. Et en fait, on n'applique pas les règles. Il n'y a pas de règles. Et donc là, on est sur des champs où effectivement, on ne fait pas reculer la pollution de manière suffisante, alors qu'on pourrait, l'aviation, on pourrait le faire, notamment, parce qu'on sait à peu près le faire d'un point de vue technique. Donc je veux dire, et c'est vrai après, qu'un des enjeux du tourisme, il se développera s'il sait avoir un impact écologique moins fort. Mais c'est vrai pour n'importe quelle activité, mais pour celle-là en particulier, parce qu'effectivement, on a toujours l'impression qu'au fond, ça sert à quoi de se reposer? Mais je vais vous dire quand même, se reposer, c'est vachement bien.
Philippe Lefebvre. Et après, on prendra Didier Arinaud.
Il y a un bon baromètre pour mesurer la volonté des professionnels du tourisme de s'impliquer. C'est les palmes du tourisme durable qui existent depuis l'année dernière. Alors, au départ, c'était un petit peu babacool. La première sélection, d'ailleurs, je crois, Mme Mignon, que vous faisiez partie du jury.
Je fais partie de l'association qui l'a lancée, même.
Absolument.
Alors, c'est pas trop babacool.
C'était un peu babacool, mais il y avait des idées intéressantes. Et là, on s'aperçoit de quoi aujourd'hui? On s'aperçoit que, après la première édition, il y a des grands groupes touristiques qui commencent à s'y intéresser. Alors l'année dernière, il y avait déjà le groupe Barrière avec des palaces et des casinos, mais maintenant on va avoir Voyageurs du Monde, on va avoir Salin, on va avoir les grands professionnels du secteur qui commencent à se dire bah tiens, peut-être que nous aussi, il faudrait qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice et qu'on essaye de faire quelque chose. Ils vont pas révolutionner le monde, n'en déplaise à Michel Salin ou Jean-François Rial, les patrons de ces entreprises, mais il va se passer quelque chose.
Didier Arinaud, on vous oublie pas, vous êtes à Bordeaux, vous êtes loin, mais vous êtes toujours sur l'antenne. Il est déjà pratiquement 19h57, alors je voudrais que vous donniez la parole pour ce dernier tour de table, pour le mot de la fin, vous qui êtes un spécialiste du tourisme.
Alors d'abord, un mot tout à fait positif. Il y a un grand nombre d'expériences positives dans le secteur du tourisme. Quand on voit aujourd'hui le tourisme à Bordeaux, on accède avec la LGV, il y a des voitures électriques, il y a des vélos qui sont à disposition, et donc on peut, avec un très faible impact environnemental et avec une valorisation d'une ville au travers de sa thématique, et notamment sa thématique du vin avec la Cité du Vin. Un autre exemple sur un projet qui a été créé cette année, c'est le dernier Club Med à Samoins. C'est un projet qui a été créé en 17 mois en faisant travailler uniquement des entreprises locales. C'est 1000 emplois de retombées sur la vallée, et ça, on en parle trop peu. Et puis, il y a des quantités d'initiatives menées sur les territoires. qui permettent de concilier à la fois un développement d'un tourisme durable, mais aussi une amélioration de la satisfaction des clientèles. Quand on voit le travail qui a été fait en région Aquitaine sur la filière vélo, quand on voit le travail qui est fait en Vendée pour diversifier les activités et promouvoir un tourisme sportif, quand on voit le travail qui est fait en montagne. Donc, nous faisons
donc
des choses,
de choses
à l'échelon des territoires. Il manque certainement une plus grande coordination.
Je suis obligé de vous arrêter, Didier Arnaud.
Je suis tout à fait d'accord.
Merci beaucoup pour que tout le monde puisse conclure cette émission, Caroline Mignon. Pour vous, la priorité des priorités aujourd'hui, ce serait quoi?
Voilà, j'avais deux points à mentionner. C'est qu'effectivement, on a parlé de moins prendre l'avion, d'avoir un impact écologique moindre. Ça ne va pas avec un objectif de 100 millions de touristes qui viennent de loin. On ne s'occupe pas des 40% de Français qui ne partent pas en vacances. Ce serait peut-être intéressant. Ce serait peut-être aussi intéressant d'essayer de prolonger, d'avoir des durées de séjour plus longues, parce que ça permet des retombées locales plus importantes en minimisant le bilan carbone. Donc ça, je pense que c'est un premier enjeu qui est extrêmement important. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le tourisme durable, on parle souvent de tourisme durable un peu comme une niche, une filière. C'est pas une filière, le tourisme durable, c'est une démarche que les acteurs prennent. Les pannes du tourisme durable dont on vient de parler en sont un exemple. Et aujourd'hui, les acteurs s'organisent pour plus d'écologie dans le tourisme et plus de durabilité.
Jean Viard, votre conclusion à vous.
Juste un mot, de plus en plus, le premier touriste, c'est l'habitant. Parce que le tourisme et les loisirs se sont fusionnés. Regardez Paris-Plage, regardez le vélo en ville. C'est-à-dire que les pratiques du tourisme sont rentrées dans la ville. Donc en fait, quand on fait du tourisme aujourd'hui, on améliore la qualité des habitants quand c'est bien fait. Et c'est ça qu'il faut dire. Le premier client du tourisme, c'est l'habitant. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Donc c'est comme ça qu'il faut le développer.
Et pour respecter la planète, puisque ça a été quand même la grande question de cette semaine, il faut quand même limiter les déplacements, ce que disait Caroline Mignon.
Il faudra une vraie politique incitative pour que les acteurs et les voyageurs prennent conscience de ça et puissent agir dans ce sens-là.
Il n'y a pas une politique, il y en a des tas, je veux dire. Il faut laisser les gens être libres aussi.
Merci beaucoup Jean Viard, merci Philippe Lefebvre, merci Caroline Mignon et merci à Didier Arnaud, à Bordeaux. C'est la fin de ce téléphone sonne. Merci à tous de nous avoir appelés. Merci aussi à Thomas Lehété, à la technique ce soir, Loïc Frapsos, Fabrice Desmas, Stéphane Boja. Merci à nos confrères de France Bleu Gironde pour la liaison à distance et merci aux standardistes de l'émission.